Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, pour arrêter de se faire exploiter, là, faut...
ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Moi je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Ben allons-y, arrêtons tout pour demain.
C'est la nuit, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, mes parents sont rentrés.
Bonsoir. Vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, et c'est le Canu Info du lundi 14 mars 2022.
Et à l'international, on commencera
par une mobilisation en Argentine contre la dictature du FMI.
Et puis au national, on continuera avec la révolte et la répression en Corse. Un point sur les inculpés du 8 décembre et le procès de la bague de nuit de Nancy.
Et au local, on finira par un point sur l'expulsion du Maria et la riposte organisée contre Grand Lyon Habitat. Et tout de suite,
les brèves.
Alors, aujourd'hui, les brèves, on va parler, une fois n'est pas coutume, d'impunité policière. Alors, commençons par Redon. Hein. Vous vous rappelez peut-être, le 19 juin 2021, on en avait parlé, une free party organisée en hommage à Steve, qui avait été tué par la police 2 ans auparavant à Nantes, le 21 juin, donc, qui avait lieu. Redon, c'est en Ille-et-Vilaine. Au moins 500 gendarmes, à cette époque, étaient intervenus pour empêcher la free party scandaleuse, accompagnée d'une unité du GIGN. En pleine nuit, il y avait eu 58 tirs de LBD, 1741 grenades lacrymogènes, 239 grenades explosives et 24 de désencerclement. Il y avait eu de très nombreux et nombreuses blessés, bien sûr, mais aussi et surtout un jeune de 22 ans qui a eu la main arrachée par une grenade explosive, qui a d'ailleurs dû se rendre à l'hôpital par ses propres moyens et grâce à ses potes, puisque les flics empêchaient à l'époque les camions de pompiers d'arriver sur la zone. Cette personne, ce jeune de 22 ans, a déposé plainte pour violence volontaire aggravée, ayant entraîner une infirmité permanente. D'après vous, quelle a été la décision prise ce samedi 12 mars par le procureur de Rennes, Philippe Astruc ? Eh bien, un classement sans suite de l'affaire pour cause, je cite, de légitime défense. Oui, il a considéré que les policiers étaient en situation de légitime défense. Idem, ce procureur a eu la bonne idée de classer sans suite la plainte de non-assistance à personne en danger quand on vous parlait d'impunité policière.
Justice à deux vitesses. Rappelez-vous, c'était le 1er décembre 2018 et des CRS avaient été filmés en train de rouer de coups des manifestants et des manifestantes pendant l'acte 3 des Gilets jaunes à Paris. Parmi ces policiers, tous échapperont aux sanctions. Une trentaine de personnes accompagnées de journalistes donc avaient été donc rouées de coups, pour certaines frappées au sol par des flics alors qu'elles avaient investi un restaurant de la chaîne Burger King. Ce mardi dernier, 1er mars, 9 des CRS ont été convoqués devant le conseil de discipline, mais ces flics assermentés sont, je cite, « menacés d'avertissement ou bien au pire, exclus 5 jours ». Une fois de plus, les preuves de l'impunité dont bénéficie la police sont frappantes.
Et pour finir sur ces brèves, attention, ne soyez pas choqués. La décision est particulièrement sévère pour ce fonctionnaire de police, membre d'une CSI. Une CSI, c'est une compagnie de sécurisation et d'intervention de la préfecture de Paris. Fonctionnaire qui était donc soupçonné d'avoir lancé une grenade de désencerclement, dont un éclat a causé l'éborgnement de Jérôme Rodriguez, l'une des figures du mouvement des Gilets jaunes à Paris. C'était le 26 janvier 2019. Ce fonctionnaire est passé en conseil de discipline pour usage non conforme de grenades. Ce policier s'est donc vu infliger il y a quelques jours une sanction particulièrement violente, 5 jours d'exclusion temporaire. L'impunité a donc toujours beaux jours devant elle.
Et maintenant, on passe au...
International.
Avec un sujet sur les mobilisations en Argentine contre le Fonds monétaire international.
Et oui, quoi de mieux pour rembourser un prêt au FMI qu'un nouveau prêt au FMI ? C'est connu, généralement ça se passe hyper bien. Et c'est pourtant ce que vient de faire et de voter le Parlement argentin ce vendredi. Donc le Parlement argentin, là c'est l'équivalent de l'Assemblée nationale en France, qui a donc voté pour un accord entre le FMI et l'Argentine de 45 milliards de dollars pour rembourser un emprunt de 44 milliards de dollars contracté sous la présidence de l'ancien richissime homme d'affaires et président de la République de 2015 à 2019, Mauricio Macri, de droite bien sûr. Ce prêt, donc, à l'époque de 44 milliards de dollars avait été contracté en 2018. C'était le 22e accord de l'histoire entre le FMI, qui, rappelons-le, à l'époque était dirigé par une certaine Christine Lagarde, qui est d'ailleurs dorénavant présidente de la Banque Centrale Européenne. Tout va bien. Donc, entre ce FMI et l'Argentine, c'était le prêt le plus important de l'histoire. Et bien sûr, il a été accompagné de politiques d'austérité drastiques imposées par l'institution financière internationale à l'Argentine. Réduction des coûts en ce qui concerne les retraites, avec une augmentation du temps de travail et du nombre d'annuités, un âge de départ en retraite éloigné. Une baisse des salaires de tous les fonctionnaires, de toutes les fonctionnaires, des subventions aux services publics diminuées, des budgets de la santé et l'éducation diminués, des privatisations, etc., etc. Un classico-classique de la politique d'austérité. Entre 2015 et 2021, les salaires des fonctionnaires et en moyenne ont perdu 20% de leur valeur nette, pardon, et la précarité et la pauvreté ont-elles augmenté littéralement, même explosé, puisque ces politiques d'austérité cumulées à la crise économique ont fait basculer 45% de la population sous le seuil de pauvreté. Le patronat argentin, quant à lui, a vu ses profits considérablement augmenter, on s'en doute, et selon certaines ONG, l'évasion fiscale de ce patronat est estimée à environ 400 milliards de dollars, ce qui permet au patronat argentin de protéger ses profits. Voilà le tableau. En 2019, Mauricio Macri perd les élections présidentielles au premier tour au profit d'une coalition péroniste dite de centre-gauche, dont Alberto Fernandez, l'actuel président, est aujourd'hui à la tête, évidemment plus que soutenu par Cristina Kirchner, l'ex-présidente de 2007 à 2015. Alors, tout ce beau monde dans l'opposition entre 2015 et 2019 criait haut et fort que l'emprunt de 2018 au FMI était injuste et illégitime. Quoi de mieux pour prouver leur bonne foi que d'en contracter un nouveau, encore plus important, puisque celui-ci, je vous le rappelle, est à hauteur de 45 milliards de dollars. Ce vote au Congrès, donc, a eu lieu ce jeudi dernier et il resserre un peu plus l'étau du FMI sur l'Argentine, comme s'il y en avait besoin. La plupart des formations politiques majoritaires, le grand patronat, les bureaucraties syndicales et les grands groupes de presse ont pesé de tout leur poids pour que cet accord soit voté. Quelles que soient les belles promesses d'Alberto Fernandez et de Cristina Kirchner, qui est aujourd'hui vice-présidente, on sait ce que ça veut dire. Un droit de regard permanent du FMI sur les politiques économiques du pays. Pays littéralement assujetti aux desiderata de l'institution financière. Privatisation, politique d'austérité, expropriation toujours plus importante des grandes ressources du pays, passant entre autres par des accords méga miniers avec des multinationales occidentales voraces, etc., etc. Et donc, appauvrissement toujours plus important, encore et toujours, de la population. Et ça, eh bien cette population, elle ne l'a que trop bien compris. Ce jeudi, jour du vote, à l'appel de plus de 200 organisations politiques, associatives, syndicales, principalement de la gauche radicale et d'extrême gauche, eh bien des dizaines de milliers de personnes se sont massées devant le Congrès pour dénoncer ce nouvel accord. Depuis plusieurs semaines déjà, dans toutes les grandes villes du pays, des manifestations importantes avaient lieu. Et face au vote massif des députés qui ont quand même voté en faveur de l'accord à plus de 200 pour, 35 contre et 15 abstentions, et bien ce vendredi, une immense manifestation a tourné à l'affrontement devant le Congrès, puis dans les rues de Buenos Aires, à coups de cocktails Molotov contre tirs policiers. Les images, si vous en trouvez sur Internet, il n'y en a pas beaucoup, mais celles que j'ai pu regarder sont vraiment assez impressionnantes. Est-ce qu'on se dirigerait vers une nouvelle situation insurrectionnelle avec blocage du pays, comme on a pu le voir en 2001 ? La suite nous le dira. En tout cas, en attendant, nous, ce qu'on crie au FMI, c'est « Abat le FMI et vive le mouvement populaire argentin ».
Et maintenant, une petite pause musicale avec un groupe de punk, Los Gatos, et le morceau.
Alors, ce n'est pas un groupe de punk, c'est un groupe de rock. C'est un groupe de rock qui, dans les années 60, s'est organisé contre la junte militaire qui a pris le pouvoir en 1966 et qui a décidé de chanter contre cette junte militaire. Et c'est le début du rock'n'roll, on est à la fin des années 60. Et d'ailleurs, après, ils vont se faire emprisonner, donc c'est Los Gatos. Et le titre, c'est La Balsa. Et vous êtes toujours sur Radio Canu, c'est le Canu Info du lundi 14 mars. Vous venez d'écouter le groupe de rock de la fin des années 60 opposé à la junte militaire Los Gatos avec son morceau La Balsa.
Et on continue tout de suite avec le...
National.
Et au National, on part tout de suite en Corse.
Oui, depuis plusieurs jours, il règne en Corse une ambiance pré-insurrectionnelle. Et pas certain que la venue de Darmanin prévue bientôt soit facteur d'apaisement, au contraire. C'est l'agression d'Ivan Colonna, mercredi 2 mars, par un co-détenu dans la prison d'Arles qui a mis le feu aux poudres. Alors pour rappel, Ivan Colonna est un emblème du nationalisme corse. Il a été condamné à perpétuité pour l'assassinat du préfet Claude Erignac en février 1998, alors même qu'il a toujours proclamé son innocence. Son agresseur, co-détenu, Franck, s'appelle Franck Elong Abbé, serait un ex-combattant de Daesh. L'agression de Colonna, qui se trouve aujourd'hui encore entre la vie et la mort, soulève un certain nombre de questions, à commencer par celle de son statut de prisonnier DPS, c'est-à-dire de prisonnier détenu particulièrement signalé. Car cela fait maintenant plusieurs années que soutiens et politiques et militants nationalistes corses réclament la levée de ce statut auquel sont attachées de nombreuses contraintes disciplinaires, notamment l'interdiction pour Ivan Colonna d'être incarcéré en Corse et donc l'impossibilité pour lui d'exercer son droit de rapprochement, surtout envers ses proches et sa famille. Pour beaucoup de Corses, ce redoublement de peine correspond donc à une vengeance d'État, un règlement de compte politique. Pour les nationalistes corses, les choses sont claires. L'État français, par la dureté de la peine prononcée et par le refus d'un transfert en Corse, est responsable de la mort d'Ivan Colonna. Et c'est bien cette colère qui s'est exprimée dans la rue, notamment chez la jeunesse et les lycéens. Sur les banderoles, lors des différentes manifestations, on pouvait lire « Statu francese assassinu »,« Assassinu », »,« État français assassin », ou bien encore « Justice et vérité pour Colonna ». Très vite, les rassemblements ont d'ailleurs pris une tournure émeutière. Attaque de la préfecture au cocktail Molotov à Corté, barricades enflammées, incendie de la direction départementale des finances publiques à Bastia dimanche dernier. Et l'émeute paye. Après seulement quelques jours d'affrontement, le gouvernement a annoncé la radiation du répertoire des DPS des deux autres membres du commando Erignac, Alain Ferrandi et Pierre Alessandri, eux aussi condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Le rapport de force installé permettrait même peut-être de renégocier les rapports entre l'État et la collectivité corse et peut-être ainsi d'accéder à d'autres revendications comme par exemple la libération de tous les prisonniers politiques corses, notamment exigé de la part des différents syndicats étudiants. Aujourd'hui, la jeunesse corse réapproprie l'histoire de la lutte autonomiste. Des actions du Front Paysan Corse de Libération dans les années 70 à la violence de la lutte armée des années 90, en passant par l'affaire des paillotes jusqu'aux récentes victoires électorales qui se sont enchaînées depuis les années 2000. Mais le processus démocratique enclenché dans les urnes depuis donc plusieurs années ne donne pas les résultats escomptés. D'où la frustration et la colère qui s'expriment aujourd'hui dans les rues. Et face à celle-ci, la répression, elle, est très très violente. Lacrymo, grenades de désencerclement, flashball, pleuvent. 6 lycéens ont déjà été touchés par des tirs de LBD, dont un adolescent de 14 ans qui a été touché à la gorge. Et malgré la venue de Darmanin dans la semaine, le mouvement de lutte n'est pas prêt de s'arrêter. Alors, liberté pour tous les prisonniers politiques et force aux manifestants et manifestantes face à la répression d'État.
On continue au National avec un point sur les inculpés du 8 décembre.
Et oui, alors que fin février...
Le micro a été coupé, c'est parti.
Et donc, oui, fin février, la dernière personne qui était incarcérée dans l'affaire du 8 décembre s'est de nouveau vue refuser sa demande de mise en liberté. Elle a donc décidé d'entamer une grève de la faim le 27 février. Pour rappel, hein, le 8 décembre 2020, la DGSI avait interpellé 9 personnes dans toute la France pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. 7 d'entre elles sont alors mises en examen et maintenues en détention provisoire sous des prétextes complètement fallacieux. On reproche par exemple à l'un des inculpés son métier d'artificier à Disneyland. Et voilà, l'ensemble des inculpés sont accusés d'association de malfaiteurs alors même que certains d'entre eux ne se sont jamais vus. L'enquête complètement à charge, en fait, elle vise davantage leur opinion politique que de quelconque fait. Pendant leur garde à vue, une des questions récurrentes était « Préférez-vous le chaos politique préférez-vous le chaos à la politique actuelle du gouvernement? Voilà, donc tout un tas de questions comme ça sur leur conviction politique, pardon. L'une des inculpées écrivait ainsi le 22 février dans une lettre ouverte au juge d'instruction Jean-Marc Herbeau. Non, le simple fait que nos considérations sur ce qui fait obstacle à l'émergence d'une société plus libre et équitable vous déplaisent ne fait pas de nous des terroristes. Et je m'oppose à l'instrumentalisation du terrorisme à des fins de répression, quelles qu'elles soient. Et alors même que vous semblez adepte de termes forts quand il s'agit de nous définir, cela ne nous gêne pourtant pas d'euphémiser et de cautionner la torture blanche qui se cache derrière le sobre mot d'isolement. Alors depuis, parmi les 7 inculpés, 6 ont été libérés, un seul est maintenu en détention, à l'isolement et dans des conditions particulièrement difficiles. À lui, il lui est surtout reproché d'être allé au Rojava pour lutter contre l'État islamique. Libre flot et donc incarcéré depuis plus de 14 mois, maintenu dans un régime d'isolement insupportable. On a parlé plusieurs fois ici de ce régime spécial auquel il est soumis et des conséquences sur son état physique comme psychologique. Il a donc décidé le 27 février d'entamer une grève de la faim et il écrit depuis la prison.
Salut à tous. Aujourd'hui, le 9 mars 2022, à 18h, j'entame tout juste mon 11e jour de grève de la faim. C'est en tant que militant politique, en tant qu'anarchiste et surtout en tant qu'humain que j'ai rejoint mes frères, mes sœurs au Rojava en 2017 dans leur lutte contre Daesh et pour leur projet émancipateur, œuvrant pour une réelle démocratie, la libération des femmes et la protection de l'écologie. C'est cette identité politique et cette expérience qu'on cherche à criminaliser depuis mon retour, en créant de toutes pièces une figure de leader charismatique, fanatisé, semblable au cauchemardesque terroriste daeshien au mépris du joyeux déconneur que je suis. Certes, toutes ces écoutes, ces filatures, ces surveillances ont révélé mes infractions à la loi. Qui n'en a pas ? Je les assume et elles n'ont rien à voir avec du terrorisme. Cette grève de la faim est devenue mon seul moyen de me faire entendre. Je ne demande même pas que cette mascarade soit classée sans suite, mais uniquement qu'après 15 mois d'isolement, je puisse être mise en liberté comme mes co-inculpés, que s'arrête enfin cette torture. Je vous remercie du fond du cœur de votre soutien. Salutations et respect. Serkeftin, j'imagine que c'est en kurde.
Et oui, le délire sécuritaire et la criminalisation de nos luttes permet aujourd'hui à la justice de laisser croupir l'un de nos camarades à l'isolement dans des conditions particulièrement difficiles. Les différentes requêtes en nullité déposées par les avocats ont été sans surprise rejetées en janvier. Les demandes de liberté, comme je le disais au début, le sont également systématiquement. L'ensemble des inculpés et leurs proches subit la pression infernale de l'instruction depuis plus d'un an sur un dossier qui n'est rien d'autre qu'un feu de paille. Alors toute notre solidarité aux inculpés et un soutien immense pour Libre Flow. On vous met sur le blog des Canu Info le lien vers la cagnotte pour payer les frais engendrés par cette répression insupportable. Et on souhaite bon courage à Libre Flow pour sa grève.
Et pour continuer dans la joie et la bonne humeur, un sujet sur 10 policiers de la BAC de nuit de Nancy en procès.
Oui, le 10 mars dernier s'est ouvert au tribunal correctionnel de Nancy le procès de 10 policiers de la BAC de nuit de Nancy, accusés par 4 de leurs collègues de harcèlement moral et d'injures raciales. C'est une enquête qui dure depuis octobre 2018 par l'IGPN pour des faits qui ont commencé en 2017 et qui se sont étalés sur au moins 15 mois. Ces 10 policiers sont donc poursuivis pour harcèlement moral au travail et injures raciales non publiques et pour l'un d'eux pour atteinte au secret des correspondances. Le rapport de l'IGPN évoque un système de harcèlement organisé, un racisme décomplexé, une logique de meute. Mais quelle belle analyse de la police! Un baqueux d'origine maghrébine raconte au procès la stigmatisation dont il est victime en raison de son origine en arrivant dans la brigade. Il est devenu le bouc émissaire de la meute, comme il s'appelle. Au début, ça consiste à être systématiquement placé à l'arrière du véhicule et privé d'informations lors des interventions, jamais invité lors des moments de convivialité entre collègues. Puis ça continue par des tags sur son casier avec des « on a connu mieux » comme casting, des collègues qui ne lui disent plus bonjour, ou encore des « je ne veux pas être dans le groupe du bougnoul » qu'il entend à la volée. Surtout, peu après son arrivée, est créé un groupe de discussion messenger privé dans lequel tout le monde n'est pas invité. C'est sur ce groupe de discussion que les membres de la meute s'échangent des phrases insultantes à connotation raciste, visant notamment leurs collègues, le traitant entre autres de bico et de bougnoul. La meute de la BAC de nuit de Nancy a ainsi harcelé et poussé à bout plusieurs policiers jugés indésirables, principalement donc des non-blancs et des femmes, pour qu'ils quittent la brigade afin de respecter le mot d'ordre informel des brigadiers Willy L et Laurent M, qui sont un peu les meneurs de la meute. Ce mot d'ordre donc est rapporté par un des policiers au procès, c'est ni Bougnoul ni Gonzès pour le recrutement des nouveaux agents de la brigade. Willy L pouvait donc répondre au four quand un collègue lui parlait de migrants. Et puis un autre membre de la meute arborait des t-shirts de la marque Torst Steiner, connu pour sa proximité avec les mouvances d'extrême droite. Mais non, tous ces policiers n'appartiennent pas du tout à l'extrême droite, en tout cas c'est ce qu'ils disent au procès, ils ne sont pas du tout racistes, ils affirment que tout ça n'était que boutade et qu'ils ont agi en étant entraînés par un effet de groupe. Malgré ça, ils peuvent quand même déclarer à la barre que Bico, c'est pas raciste, mais sale Bico, oui. Il y a quelques problèmes de définition au sein de la police. Les peines requises par le paquet contre les 10 membres de la meute seront prononcées demain. Évidemment, et au vu des quelques brèves qu'on a présentées au début d'émission sur ce type de sujet, on n'attend pas grand-chose de la justice pénale pour condamner des policiers, même contre leurs propres collègues policiers. En tout cas, une chose est sûre, la police déteste bien tout le monde, à commencer par les personnes racisées.
Et parce qu'on en a vraiment marre de la police, on va vous mettre un morceau, là, ce coup-ci, de punk. Alors, le groupe s'appelle Punk N Roll, N-H-A-I-N-E, et le morceau s'appelle très subtilement « Tout le monde déteste la police ».
La police, tout le monde.
ouais, tout le monde déteste la police. En tout cas, nous ici, on la déteste. Vous êtes bien sur le Canu Info du lundi 14 mars 2022. Vous venez d'écouter Punk and Roll avec ce joli son « Tout le monde déteste la police ».
Et maintenant,
et oui,
on passe à la dernière partie de l'émission, c'est-à-dire au...
local.
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 Et donc on commence et on termine d'ailleurs cette émission avec un point sur l'expulsion du squat Le Maria et leur riposte contre le bailleur social Grand Lyon Habitat.
Oui, jeudi dernier, le squat Le Maria situé à la Guillotière a été expulsé. Pour rappel, le squat Le Maria Carré, deuxième bâtiment à avoir été occupé à la suite du bâtiment expulsé ce jeudi, était vide depuis un incendie ayant eu lieu il y a quelques semaines. Alors que le tribunal avait accordé un délai allant jusqu'à juin 2022 au Maria et donc interdit toute expulsion avant cette date, la métropole de Lyon a pondu un petit arrêté de péril imminent concernant le bâtiment, lui permettant d'expulser une soixantaine d'habitants en 24 heures et de contourner la décision de justice. Pour le collectif du Maria, il s'agit bien d'une magouille politicienne puisque le bâtiment appartient à Grand Lyon Habitat, dont le président n'est autre que l'oncle de Bruno Bernard, président Europe Écologie Les Verts de la métropole. C'est donc un petit arrangement familial pour Grand Lyon Habitat qui en avait marre que son bâtiment soit squatté, c'est difficile
c'est
à dire.
C'est pas si simple.
Cette décision a évidemment été prise officiellement pour protéger les habitants et habitantes face à un danger électrique suite à l'incendie de l'immeuble d'à côté, le Maria Carré donc. Mais aucun lien n'a été établi entre l'incident du Maria Carré et l'installation électrique du Maria historique. Grand Lyon Habitat a fait venir un pseudo-expert qui a dit que l'installation électrique de l'immeuble était dangereuse. Alors que c'est la même depuis 2021, que des locataires habitaient l'immeuble et utilisaient cette installation, sans que ça inquiète beaucoup Grand Lyon Habitat à l'époque, plutôt connu pour ne pas trop se soucier de ce genre de détails, voire plutôt connu pour être condamné à faire des travaux dans des logements considérés indécents par la justice. Surtout, l'électricité a été complètement refaite par les squatteurs et squatteuses du Maria, qui avaient installé des câbles et des protections neuves. Le soi-disant expert a donc en fait rendu un avis sur la base de photos de l'ancienne installation alors qu'aucun courant n'y passe depuis ses travaux. Et puis, donc, si le problème c'était le risque électrique, pourquoi ne pas la couper pour faire disparaître le danger ? Voire, soyons fous, la couper le temps de la sécuriser par des travaux pris en charge par la métropole par exemple. Eh bien, comble du cynisme, la métropole et Grand Lyon Habitat ont expliqué que ce n'était pas possible de couper l'électricité car c'est la trêve hivernale. Il vaut donc mieux expulser 60 personnes en 24 heures.
Logique,
non ? Bon, la vraie raison de cet arrêté de péril, c'est que les habitants et les habitantes l'ont entendu avant même d'avoir fini de sortir leurs affaires, puisque le personnel de Grand Lyon Habitat évoquait déjà les travaux qui devaient commencer ce lundi pour faire une résidence étudiante qui rapportera beaucoup plus d'argent à Grand Lyon Habitat qu'un immeuble squatté, évidemment. En attendant, sur 60 habitants, seuls 42 ont eu des places d'hébergement d'urgence en hôtel pour quelques semaines, éparpillées aux quatre coins de la métropole. Oui, parce que la métropole n'a compté que les personnes présentes au squat la veille de l'expulsion. À 3 mois de la fin du délai prévu par la justice, aucun diagnostic social n'avait donc été réalisé. Alors, ce petit maniement des arrêtés, cette technique d'éparpillement des personnes avec des places d'hébergement pour quelques jours pour ensuite les mettre à la rue, rappelle bien les années sombres de l'époque colon. Enfin, toute l'époque colon, quoi. En riposte à ces manœuvres de Grand Lyon Habitat et de la métropole de Lyon, le collectif Boule de Rage a attaqué le siège de Grand Lyon Habitat cette nuit en cassant leurs vitres et en les repeignant avec le message « Une vie brisée, une vitre cassée ». Puisque les personnes donc du Maria ont dû quitter le squat en 24 heures, n'ont pas pu récupérer toutes leurs affaires, sachant qu'elles habitaient là-bas depuis 2 ans et demi et que maintenant c'est vraiment la merde pour elles et eux.
Voilà, encore un grand merci à Grand Lyon Habitat et la métropole. Alors, on va terminer cette émission un peu plus tôt que d'habitude, puisqu'on n'a pas d'interview. Mais avant de terminer cette émission, nous allons évidemment vous énoncer le traditionnel... Allez, agenda.
Wow. Et à l'agenda, notamment, il y a ce jeudi 17 une journée de mobilisation générale et de grève pour la hausse des salaires et contre la précarité.
Vendredi, nous avons la projection d'un film qui s'appelle « Amis dessous la cendre », ainsi que la présentation de la réédition du livre « Espoir déçu ». Donc c'est vendredi le 18 mars. Ça sera suivi d'une discussion-débat sur les engagements anti-franquistes et libertaires durant la transition démocratique espagnole. Et ça se passe à la librairie La Plume Noire, donc le vendredi 18 mars à 20h.
Et apparemment, c'est tout à l'agenda. Non, ce dimanche, il y a aussi un concert de soutien au squat Le Chemineur.
Et l'autre squat chez Gemma.
Voilà, et ce sera à 20h à l'Embuscade, 35 pardon, rue Humbert Colomès à Lyon 1er.
Voilà. Bon, sinon, lundi prochain, alors d'ailleurs, on a oublié d'en parler entre nous, mais il y a une marche des Kurdes, le Nouvel An kurde à 19h qui part de Bellecour et qui finit place Mazagran. Donc, on vous invite évidemment à y aller. Et peut-être que nous y serons. Mais voilà, peut-être que nous ne ferons pas d'émission, mais peut-être que nous en ferons une. C'est la surprise.
D'ici là, en tout cas, on vous souhaite une bonne soirée et on vous dit peut-être ou peut-être pas à la semaine prochaine.
La frontière du sort, je suis la pioche au tunnel, sous le phosphore en salve et les coups de soleil.
Camino à la mer, c'est la mer qui me chauffe.
Je ne précise plus ma destination.